Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. Son titre, Recouvre-le de lumière. Alain Moncouquiol, édition Verdier Poche. Il est écrit par Alain Moncouquiol. Et pour introduire ce récit, je vais lire quelques lignes sur la dernière page. Dans les années 60, Alain Moncouquiol devient, sous le nom de Nimeño, un des rares toreros français de l'après-guerre. En 1974, il met fin à sa carrière pour s'occuper de celle de son jeune frère Christian, qui, sous le nom de Nimeño II, deviendra le premier grand torero français de l'histoire. Les années d'apprentissage et de misère en Espagne, les triomphes dans toutes les arènes de France, d'Espagne, du Mexique et de Colombie, l'accident et la fin tragique de son frère, c'est cette aventure extraordinaire qu'Alain Moncouquiol raconte dans ce livre bouleversant, plein des tumultes et de la démesure d'une passion véritable. En ouvrant le livre, je tombe sur une photo que je vous décris. C'est deux frères, un grand frère avec une cape à la main. Il entoure de son bras son frère plus jeune. Leurs deux regards se dirigent vers le même endroit, le centre de l'arène. En quelque sorte, c'est le résumé de ce récit. Deux frères, une même passion, la tauromachie. Nous commençons notre lecture de ce livre. Après la mort de Christian, j'ai été pris par un irrépressible besoin de rangement, trier, classer, mettre de l'ordre. Cette frénésie n'était pas due au seul besoin de rester dans l'illusion de sa présence. En manipulant les quelques objets qui me parlaient encore de lui, c'était aussi, surtout, une façon inconsciente de lutter contre le souffle destructeur de sa mort, qui avait tout éparpillé, tout détruit dans ma vie et dans mon esprit. Je voulais reconstruire. Écrire participait peut-être de ce même désir. Mais si l'on peut classer des photos, des affiches, des articles de journaux ou des films, quelle dérision, quelle prétention d'imaginer sereinement qu'on peut en faire autant avec les sentiments, les souvenirs, les blessures ou les joies d'un passé irrémédiablement disparu. Ce livre, sans vraie chronologie, sans plan, sans but, reflète l'acceptation d'un désordre contre lequel je ne peux rien. Un désordre contre lequel je me reconnais incapable de lutter. Voici ces petits bouts de souvenirs tombés comme les feuilles d'un arbre parce que Christian est mort ce matin, voici 5 ans. Allongé sur son lit, le drap remonté jusque sous le menton, cette image de Christian m'était familière. C'était celle des chambres d'hôtel que nous avions partagées, des hôpitaux où je l'avais veillé. Je me suis allongée contre lui, luttant contre le désir de me glisser sous le drap. J'ai posé ma main sur sa tête, j'ai caressé ses cheveux, ses sourcils, ses paupières étaient fermées. Comme tombée de ses cils, encore humides sur sa joue droite, la larme noire de son grain de beauté. Pas de barbe, ou si peu sur ses joues creuses et son menton. Une voix espagnole venue du passé a dit joyeusement « Tu as de la chance, il te suffit d'une gomme pour te raser ». Une grande douceur lissait les traits de son visage. La mort, malgré sa violence, avait effacé toutes les traces de ses souffrances et Christian semblait dormir. Je n'osais plus bouger, plus même lui chuchoter encore un mot. Ma main avait quitté la sienne pour bâillonner ma bouche. Un coup de corne, un coup de corde. La cruauté des mots m'a transpercé l'esprit. Dehors, bientôt, répétés par mille voix, les mots cesseraient de jouer. Ils redeviendraient juste « Nimeño s'est suicidé ». Le petit garçon insouciant, qui marchait dans les herbes craquantes, qui respirait avec délice l'odeur du thym et des plantes écrasées sous ses pas, guidé seulement par l'envol bleu et rouge des sauterelles, s'agenouillant pour cueillir de fragiles petits champignons roses et les aligner délicatement le long de son avant-bras replié contre sa poitrine, courant enfin pour les apporter chez lui comme on ramène un trésor. C'était moi, j'avais 10 ans. C'était moi. Quelques instants avant d'apercevoir par la fenêtre de la salle à manger ma mère en pleurs et autour d'elle un groupe d'inconnus. Ils avaient l'air tristes et parlaient à voix basse. Leurs visages sombres se tournèrent tous vers la fenêtre d'où je les observais. Les champignons glissèrent le long de mon bras et éclatèrent à mes pieds. La porte s'ouvrit, quelqu'un me souleva de terre à bout de bras puis m'écrasa contre sa poitrine en me caressant les cheveux. Sur la table, le couvert n'était pas mis, mais il y avait du pain, du fromage, du jambon et 2 gros pots de moutarde. J'ai observé comment tous ces gens étranges trempaient leurs couteaux dans la moutarde, badigeonnaient leurs tartines, puis posaient dessus une tranche de jambon. Tout ce que je voyais de leur comportement était étrange, inquiétant. Ils voulaient tout ce que je mange et je n'avais pas faim. Je ne savais ni ce que je devais dire, ni comment me conduire. J'avais envie de partir en courant, rejoindre le potager, puis la garrigue. Quelqu'un m'appela, m'entraîna dans une autre pièce, puis s'agenouilla jusqu'à ma hauteur. Sa grosse tête toute proche de mon visage, l'inconnu me regarda au fond des yeux, puis me tapotant la joue me dit « Alain, tu es presque un homme maintenant. Tu devras être très courageux parce que ton papa est mort. » Mes oreilles se sont mises à bourdonner et j'ai senti mon cœur bouger dans ma poitrine. On m'a enfin laissé sortir. J'étais assis au milieu d'un sentier de terre rouge, les yeux baissés sur un petit tas de pierres lisses que j'avais une à une décollées du sol sec en creusant de mes ongles la terre qui les emprisonnait. J'avais toujours ce bruit dans les oreilles et je me répétais « Mon père est mort, mon père est mort ». Mort d'une fracture du rocher, c'est ce qu'ils avaient dit. Et maintenant, on allait creuser un trou dans la terre et le mettre dedans. J'observais les petits trous si ronds, si propres, qui étaient apparus à chaque caillou que j'avais décollé du sol. On aurait pu y poser plein de papas morts et les recouvrir d'un seul coup d'une poignée de terre. Je pensais aux champignons que j'avais arrachés pour rien. Je pensais à tous ces gens qui mastiquaient là-bas dans la salle à manger. Je pensais à la grosse moto kaki qui n'était plus devant la porte de la maison depuis qu'on m'avait parlé d'hôpital et de coma, d'accident. Je pensais à cette moto qu'on m'interdisait de toucher mais que j'avais escaladée des dizaines de fois en cachette. Qu'avais-je bien pu faire de terrible, de grave et de méchant pour que mon père soit mort et pour que je sois là, assis par terre, avec cette grande peur qui me creusait le ventre? C'était si compliqué et ça faisait si mal toutes ces idées. Serrant dans ma main une poignée de pierres, je me suis levée pour la jeter au loin. J'ai écrasé la terre et ses trous, et puis j'ai couru. En retrouvant l'odeur du thym, une petite plainte est sortie de ma gorge, un petit cri continu qui a empli mes yeux de larmes, brouillé ma vue, brouillé ma vie. Je m'interdisais de questionner ma mère. Je ne lui parlais pas non plus de ma peine. Être un homme, être courageux, je ne savais pas ce que cela signifiait. Personne ne me l'avait expliqué. J'imaginais que je devais cacher tout ce qui me tourmentait, paraître normal, tranquille. Les questions que je n'osais pas poser, je finirais bien, pensais-je, par en deviner les réponses autrement. Qui était mon père? Que pensait-il de moi? Est-ce que ça lui avait fait mal de mourir? Est-ce que c'était un peu par ma faute s'il était mort? Qu'est-ce qu'il aimait? Je regardais longuement les objets qui lui avaient appartenu, la clarinette dont il jouait le soir enfermée dans la salle à manger, les tableaux de bois noirs incrustés de nacre ramenés d'Indochine, avec leurs petits bonhommes au chapeau en accent circonflexe et leurs dragons grimaçants. Je caressais les écailles d'une grande peau de serpent retrouvée dans une cantine, avec d'énormes coquillages roses et des pièces de monnaie aussi grandes que ma main. Il y avait mon père dans ces objets. Quelque chose de lui était là, quelque chose qu'il était urgent que je sache. J'essayais d'imaginer les pays où il avait vécu. Je répétais à voix basse le nom des villes qu'il avait notées sur un cahier de route. Bangoua, Saïgon, le tréma sur les « i » ajoutait du mystère à mes tristes interrogations. Mon père s'éloignait. Je ne saurais plus rien de lui. Rien d'autre que sa mort et la grande peur qu'elle avait fait naître en moi. J'inventais tous les malheurs, tous les drames possibles, persuadée qu'une fois née de mon imagination, il ne pourrait plus exister vraiment, plus me surprendre. En les imaginant, je leur ôtais, pensais-je, tout pouvoir maléfique. Je me méfiais de l'insouciance, des projets qui me transporteraient loin dans l'avenir, laissant le terrain libre à la fulgurance du malheur. Ainsi prit forme la mémoire de mon enfance. Une mémoire inutile, puisque j'étais condamnée par avance. Lorsque je voudrais m'y replonger, à n'y retrouver que la douloureuse confusion qu'il avait vue naître. D'Allemagne, où mon frère Christian était né en 1954, mon père avait été muté au camp militaire de l'Ardoise, dans le Gard. Son projet, partir au plus vite aux îles Kerguelen dans l'océan Indien, brisé. Les années d'ancienneté comptaient double pour les militaires en poste à l'étranger et mon père, jeune encore, avait espéré ainsi accélérer la date de sa retraite. Poursuivant, peut-être, quelques rêves dont je ne saurai plus jamais rien. Les îles Kerguelen devinrent dès lors mon seul héritage et je l'acceptai avec infiniment de reconnaissance. Jusqu'à notre arrivée à Nîmes en 1958, rien ne m'avait vraiment sorti de cette indifférence fabriquée, de ce fatalisme effrayé. Nous avions déménagé plusieurs fois, je n'avais pas d'amis et contrairement aux enfants que je côtoyais dans les écoles, je n'avais rien à dire, rien à raconter. J'étais persuadée qu'il ne m'arriverait jamais rien, rien d'heureux ni d'exaltant. Je n'ai gardé aucun souvenir de la personne qui m'emmena à Nîmes, voir les taureaux de corrida que l'on parquait alors au boulevard Natoire, à deux pas de la gare. Perché sur un cairon, j'avais approché mon visage d'une lucarne dans le mur de béton, et mon cœur avait tressailli dans mon pantine en les découvrant énormes et majestueux. Certains étaient couchés, immobiles comme des statues. D'autres marchaient lentement, balançant leurs lourdes cornes. Une odeur âcre et tiède emplissait l'enclos, et les gens, cela m'avait étonné, parlaient à voix basse. Une grande émotion s'était emparée de moi et ne m'avait pas quittée jusqu'au dimanche suivant où j'assistais à ma première corrida. Tout au long de la course, je passais de l'enthousiasme au dégoût. D'abord ébloui par l'envol rose et jaune des capes, des passes des capes, puis écœuré par le sang ruisselant sur le garrot et les pattes des taureaux après les piques, de nouveau séduit par la virtuosité des poseurs de banderilles et la beauté du travail de Muleta, mon regard maintenant ne quittait plus la lame brillante de l'épée. En un éclair, elle avait disparu dans le corps du taureau dont les soubresauts d'agonie puis la mort m'avaient laissé tremblant, sourd aux cris de la foule et aux battements même de mon cœur. Les yeux écarquillés, je regardais l'étrange spectacle du cadavre noir traîné par deux chevaux. J'étais bouleversée. Le drame du taureau l'emportait dans mon esprit sur celui de l'homme dont je ne savais rien encore. Les taureaux, je les avais vus vivants tout près de moi dans les corrales. Je les avais revus superbes, balayant la piste de leur charge furieuse et puis, peu à peu, de pique en banderille, de passe en passe, s'affaiblir, puis mourir, sans jamais fuir, sans cesser de se battre. Pour la première fois, j'avais vu vraiment la mort, le passage de la vie à la mort. La foule m'avait fait peur. Je ne savais que penser des toreros. Ils étaient sûrement très courageux pour oser affronter ces monstres. Mais ils donnaient la mort avec leurs épées et cela m'était insupportable. À la bibliothèque municipale, chez les bouquinistes, je cherchais, dans les revues et les livres taurins, des réponses aux questions que je me posais sans cesse. Je lus Antonio Diaz Canabate, Claude Poplin, Ernest Hemingway, Joseph Peyret, Paco Tolosa. Je mémorisais sans effort mes lectures, mais je n'avais personne avec qui parler de cette fièvre qui s'emparait de moi. Sur le mont Margarot, je finis par me faire quelques copains avec lesquels je jouais aux boules, au volant, parfois. À l'approche de la feria, ils parlaient de taureaux. Je les écoutais avidement, mais je n'osais pas me mêler à leur conversation. Dans le secret de ma chambre, j'épinglais des cartes postales sur l'armoire à côté de la glace et j'essayais d'imiter les gestes des toreros. Je ne pouvais plus m'empêcher de rêver à ces hommes, là-bas, en Espagne, qui allaient la nuit dans les élevages toréés au clair de lune. Je lisais avec exaltation la vie de Manolete et sa mort tragique, la rivalité loyale de Machaquito et Bombita, celle de Joselito et Belmonte. C'était formidable d'apprendre toutes ces choses, d'imaginer Séville, Madrid, Mexico, les taureaux de Miura, le chant flamenco et toutes ces histoires où, grâce à leur seul courage, des enfants pauvres, passionnés, romantiques, finissaient par triompher de l'adversité à travers une vie d'aventure et de risque. J'aurais aimé être comme eux, vivre comme eux prendre des risques, devenir riche et distribuer autour de moi l'argent ainsi gagné. Lorsque, enfin n'y tenant plus, je me décidai à parler à mon tour de la tauromachie, je déversai devant mes copains ébahis cette passion que j'avais nourrie secrètement au fond de moi. Je leur avouai tout et je lus dans leurs yeux de l'étonnement, de l'admiration devant mes connaissances. Les gamins que nous étions, aucun de nous n'avait plus de 13 ans, se transformèrent rapidement en une équipe de petits aficionados passionnés. Nîmes avait alors presque autant de bandes d'adolescents que de quartiers. Il y avait la bande de la Placette, du plan Bachalas, du chemin bas d'Avignon. Dans le centre de la ville, les deux clans les plus prestigieux portaient les noms des boulevards où ils se réunissaient, l'amiral Courbet et le Victor Hugo. Nous, nous étions du Mont Margarot, le cœur de notre quartier. Une petite colline en pente douce, recouverte de hautes herbes jaunes, de buissons épais avec une vingtaine de grands arbres, des pins immenses, des cyprès aussi, dont les branches semblaient n'avoir poussé que pour permettre aux enfants de grimper sans effort jusqu'à leur sommet flexible. Nous étions fiers de ce petit morceau de garrigue posé là, au milieu des maisons, à quelques pas seulement du centre de la ville. C'est à l'ombre des arbres, allongés dans les aiguilles de pin, que nous nous retrouvions tous les jours après l'école. Nous y passions nos jeudis, nos dimanches, nos vacances aussi. Nous étions tous pressés de nous précipiter à ce rendez-vous pour raconter chacun à notre tour ce que nous avions lu, entendu ou pensé de notre passion commune, les taureaux et les toreros. Ces discussions enflammées nous menèrent tout naturellement jusqu'à un grand terrain vague, herbeux, clôturé par des balustrades de fer qui, avant notre folie taurine, ne nous intéressait qu'au mois de juin pour y entasser une grande quantité de bois en prévision du feu de la Saint-Jean. Maintenant, le bassin, comme nous appelions cet ancien et grand réservoir d'eau couvert que nous avions tant de fois traversé sans y prêter attention, devenait dans notre esprit la piste d'une arène. Une arène carrée où nous nous donnions désormais rendez-vous et que nous parcourions en marchant droit, en sifflotant des airs de Paso Doble, le regard fixé sur le sommet de la rue, porte cancière, qui disparaissait tout là-haut pour aller se perdre vers les premiers mazés de la garrigue. Les fenêtres des maisons devenaient à nos yeux comme autant de gradins d'où les habitants spectateurs observaient nos jeux. Nous mimions les charges des taureaux, les attitudes des toreros, dans un décor idéal qui surplombait toute une partie de la ville. Depuis la rue Meynier de Salinelle, où j'habitais, jusqu'à la Croix de Fer, où j'allais à l'école, je devais 4 fois par jour passer devant notre arène qui devenait ainsi le centre de toutes mes pensées. L'école n'était qu'une parenthèse contraignante et je m'y ennuyais beaucoup. Seul un professeur m'avait fait rêver lorsque j'avais pu vérifier de mes propres yeux ce que l'on m'avait signalé dès le premier jour. Il gardait en permanence caché au fond de la poche de sa veste une petite corne de vache recourbée et brillante avec laquelle il lui arrivait de piquer les fesses des élèves trop indisciplinés. Je ne me liais guère d'amitié avec des camarades de classe, un peu par timidité, beaucoup parce que je ne me retrouvais pas dans leurs conversations pleines de football, de piscine, de balade dans la voiture à papa. Un jour, pourtant, ils m'interpellèrent pour me demander ce que je faisais, moi. J'avais sursauté et l'angoisse de n'avoir rien à leur répondre me paralysa un instant, puis une voix que je ne connaissais pas sortit de ma bouche. « Moi ?» Je fais partie de l'école taurine de José Piles. J'avais osé un tel mensonge. Mon audace m'emplit de frayeur en même temps que j'éprouvais la sensation étrange d'être regardée, écoutée. Jusque-là, mon mensonge m'avait sauvée, mais maintenant, je devais continuer pour répondre à cette curiosité soudaine. Alors, j'expliquais la Camargue, l'Espagne, l'école taurine. Je m'inventais une vie passionnante, exaltante, en me gardant bien de préciser qu'il ne s'agissait là que de mes rêves. En quelques jours, je devins Moncuquiol le torero. C'était très agréable et tellement excitant que je finis par perdre toute prudence. Tant dans ce mensonge, ma vie devenait douce. Sur le mont Margaro, je rêvais avec mes copains. Et à l'école, j'avais presque un public. Des admirateurs qui savaient, comme tous les gamins de la ville, qu'il y avait des spectacles gratuits plusieurs fois par an dans les arènes, le 1er mai, le 14 juillet et le 11 novembre. À cette époque où les distractions étaient rares, l'amphithéâtre se remplissait d'un public populaire et joyeux. Les programmes étaient souvent les mêmes. Raseteurs et cocardiers, jeux de gardiens, charlotades, capéa avec simulacre de mise à mort, et puis surtout, des taureaux ou vachettes réservés à la jeunesse. Chacun pouvait alors descendre dans la piste, et les amateurs était même encouragé par des primes récompensant les actions les mieux, les plus brillantes. 5 francs à la cocarde, 5 francs pour 3 passes de cap, 5 francs au bachouchage ou à l'homme statue, le double pour les filles. La veille d'un 1er mai, mes copains me quittèrent devant la porte de l'école plus chaleureusement qu'à l'habitude. « Alain, on te voit aux arènes demain ?» « Bien sûr. N'oublie pas ta cape, on va venir t'encourager. » Un hochement de tête répondit à ma place et mon corps se couvrit de frissons. Comment avais-je pu être aussi stupide ? Je rentrai chez moi, sombre, en me répétant cette fatale conversation. Et maintenant qu'il était trop tard, je trouvais à chaque fois la réponse idéale, brillante, imparable, qui m'aurait évité de tomber aussi bêtement dans ce piège. Mais il n'y avait plus rien à faire, et je devais à tout prix apporter la preuve que je pouvais toréer, sous peine de voir mes admirateurs devenir mes bourreaux et me couvrir de ridicule. J'imaginais l'enfer de leur moquerie, et la peur grandissait en moi. Ce que j'éprouvais là, par ma faute, était bien plus inquiétant que mes petites peurs de l'école. Peur de recevoir un coup de poing lors des inévitables disputes entre gamins. Peur de ne pas savoir mes leçons et d'être puni. Non, cette peur-là, c'était, je le comprendrai plus tard, la véritable double peur des toreros. Peur de l'échec et peur du taureau. Il me fallait demain trouver la force de me rendre aux arènes avec ma cape et d'affronter pour la première fois un vrai taureau. Ce rendez-vous m'obséda, m'empêcha de dormir. Ce taureau que j'imaginais terrible tourna toute la nuit dans ma tête. rematant contre mes paupières chaque fois qu'elle voulait se refermer sur lui. Le lendemain, entouré de mes camarades qui m'avaient vite repéré sur les gradins et s'étaient agglutinés autour de moi, j'assistais, silencieux, catastrophé, à tout le spectacle. Mon angoisse croissait au rythme de l'impatience de mes supporters. Lorsque, hélas, on annonça au micro la sortie du taureau pour la jeunesse, j'avais espéré de toute mon âme qu'il ne sortirait pas. Un copain inquiet me dit, en me regardant dans les yeux, « Tu vas vraiment y aller ?» Il ne sut jamais combien cette phrase amicale me toucha, m'aida à prendre mon élan, à me lever, à sortir de la doublure de mon blouson le bout de chiffon que j'y avais caché, à dégringoler de banc en banc jusqu'au premier rang, de là à sauter dans le Calejón, puis dans la piste pour me trouver comme en rêve devant le taureau qui s'engouffra dans ma cape blanche, un bout de drap volé à la maison, et me laissa essouffler, clignant des yeux dans un nuage de poussière. Le taureau fit le tour de la piste, rasant les barricades, et me retrouva devant lui. Je lui donnai une autre passe, et puis d'autres encore. J'étais anéanti de bonheur. Je remontai sur les gradins, d'où mes copains me traînèrent de force jusqu'à la présidence pour recevoir mes 5 francs, dont je ne voulais pas, mais qui pour eux représentaient la preuve palpable, le sceau officiel qui devait marquer cette journée. Jamais je n'avais été aussi heureux. Toute cette grande peur, toute cette inquiétude avait donc pu en un instant devenir cette joie extraordinaire, ce plaisir de vivre, de respirer autrement. Ce taureau noir dans ma cape blanche m'avait éveillé, réveillé, offert une confiance en moi si surprenante que j'éprouvais pour lui une sorte d'immense amour éperdu. Je me revois, peu après, au musée d'histoire naturelle, écrivant fiévreusement une rédaction devant un grand taureau noir et blanc de Pablo Romero, stocké à Nîmes en 1894 par Quinito. Je mourais d'envie de monter sur le socle où il avait été fixé pour connaître vraiment la hauteur d'un taureau de corrida par rapport à la mienne. Je mourrais d'envie d'aller vers lui, mon cahier à la main tendu comme une muleta et mon stylo posé sur la hanche pour le provoquer. « Hé, taureau !» Mais j'avais peur d'être surpris par le gardien ou les visiteurs et je restais là, fasciné, perdu dans ses yeux de verre. La veille d'une corrida, nous étions quelques-uns à être descendus depuis le mont Margaro jusqu'à l'impressionnant hôtel Imperator. Assis sur la murette de pierre du canal de la Fontaine, nous observions le va-et-vient des clients dans l'espoir de reconnaître les toreros. Avant de repartir déçus, nous n'avions vu personne. Nous nous sommes approchés des grosses limousines noires immatriculées en Espagne. C'était bien là, dans ces voitures, que voyageaient ces êtres extraordinaires, les toreros. Nous avons collé nos visages contre les vitres, laissé glisser nos mains sur les carrosseries, émus à l'idée que la poussière qui noircissait le bout de nos doigts venait peut-être d'Andalousie. Parfois, l'émotion descendait tout droit du ciel. Un jour où j'assistais à la messe à l'église Saint-Paul, mon cœur s'emballa soudain. Cet homme aux cheveux noirs et brillants, dans son impeccable costume bleu, qui venait de s'asseoir à mes côtés, c'était le matador mexicain Guillermo Carvajal, celui-là même qui, tout à l'heure, vêtu de soie et d'or, serait seul face aux taureaux et à la foule immense des arènes. Et le même qui, devant mon air émerveillé, me souriait gentiment, puis tournait gravement son visage, paupières fermées, vers l'hôtel. L'arrivée des toreros une demi-heure avant le début de la corrida provoquait toujours une grande bousculade devant l'entrée des arènes, face à ce qui était alors la maison d'arrêt. Emporté par le remous, aveuglé par ce mur de tête et d'épaule, nous devions parfois nous contenter de sautiller sur place pour entrevoir une seconde l'éclair d'une silhouette étincelante dont la foule, en criant, nous apprenait le nom. « Chicuelo, Chicuelo !» Nous n'en verrions pas plus jusqu'à la sortie en piste du sixième taureau. À ce moment-là, on ouvrait enfin les portes devant ceux qui n'avaient pas de place et qui pourraient ainsi gratuitement assister à la fin de la corrida. Cette tradition, dont je ne connaissais pas l'origine, avait été un temps pour moi un mystère. Je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient « Dimanche, j'irai voir le dernier taureau ». En l'attendant, nous tournions interminablement autour des arènes, tendant l'oreille aux sifflets, aux applaudissements ou au silence, fiévreusement appliqués à les interpréter. Lorsque nous parvenaient entre les grondements des « Olé !» scandés par la foule, les notes d'un passo-doble, nous sentions sourdre en nous une grande colère à l'idée du spectacle sûrement grandiose que nous tentions d'imaginer et dont nous étions cruellement privés. Nous retournions alors jusqu'à l'entrée des toreros et attendions pour voir sortir le cadavre tiède du premier taureau qu'une camionnette découverte emportait, sanglant et poussiéreux, dans les rues maintenant désertes. « Tu as vu ? Il lui manque une oreille !» Nous n'osions pas encore resquiller. Les hautes grilles de fer nous paraissaient infranchissables. Mais surtout, nous avions peur. Plus d'un gamin, racontait-on dans les cours de récréation, avait eu le corps transpercé en tombant sur les pointes acérées qu'il fallait enjamber au terme de l'escalade. Ces rumeurs nous avaient découragés. L'image d'un corps sanglant recroquevillé tout en haut des grilles s'imposait à notre imagination avec une précision formidable. Mais à tourner et tourner encore autour des arènes, nous finîmes par découvrir, face à l'hôtel Lisita, deux barreaux suffisamment souples pour, en les écartant un peu, y glisser la tête puis l'épaule et nous retrouver en une seconde dans le couloir d'où nous courions à perdre haleine en riant de bonheur jusqu'au plus haut des gradins. Nous étions si fiers de notre découverte qu'il nous arrivait juste pour le plaisir d'entrer et de sortir ainsi des arènes, même quand il n'y avait pas de spectacle. Plus tard, l'idée de rester dans la rue étant désormais insupportable, la crainte qu'on ne découvre notre stratagème nous poussa à nous débrouiller pour acheter des places. Dès midi, mêlés à un groupe d'aficionados modestes, nous attendions collés aux grilles l'ouverture des portes pour être les premiers à grimper à toute allure jusqu'aux amphithéâtres non numérotés. Nous nous allongions les yeux au ciel, au deuxième rang, juste au-dessus de la présidence, réservant ainsi de bonnes places aux plus âgés, aux moins rapides, qui nous rejoignaient transpirants et suffocants et s'asseyaient enfin à nos côtés. « Ah, ils sont braves, ces petits » disait-il pour notre plus grande fierté. La meilleure place, nous la gardions pour un vieux monsieur de Maussanne, près d'Arles. Il roulait depuis son village jusqu'à Nîmes sur un vélo Solex qu'il allait déposer au garage du Vaudor, place des Carmes, juste à côté du magasin Les Dames de France. Dans une sacoche, il rangeait sa gabardine de voyage. De l'autre, il retirait sa musette, puis traversait la ville pour se rendre directement aux arènes, devant la grille qui offrait l'accès le plus direct aux escaliers des amphithéâtres. Il était souvent le premier de ce groupe d'habitués qui se retrouvait là, immanquablement, avant chaque corrida. Ensuite, arrivaient les Arlésiennes. Deux fortes dames, célèbres pour l'originalité de leurs insultes à la présidence lors des broncas et l'aigu de leurs hurlements lorsque les toreros étaient en danger. Aussitôt assises, elles offraient autour d'elles des gâteaux aux amandes de leur fabrication. Le papé de Maussanne, nous ne sûmes jamais son véritable nom, sortait de son sac des petits sandwichs de pain au lait, un fruit et une bouteille remplie d'un mélange d'eau et de vin. Il étalait une serviette sur ses genoux, puis mangeait et buvait lentement. Son repas terminé, toute la fatigue du voyage lui tombait sur les épaules et il s'endormait. Dans cette deuxième partie de notre texte, nous voyons que le jeune Alain, un peu solitaire d'abord, timide mais curieux, fait ses premiers pas dans la tauromachie à travers les livres. Ses rencontres avec la bande des enfants du Mont Margaro vont petit à petit le mettre à l'honneur. Une veille de 1er mai, « Alain, on te voit aux arènes demain ?» Et « Bien sûr !» en réponse. Et le voilà dans l'obligation de confirmer par ses actes les mots prononcés devant ses copains. Les arènes lui lancent un appel que nous allons suivre dans les épisodes suivants de notre lecture. Si vous voulez me suivre dans « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus, vous pourrez connaître la suite. À bientôt, chers auditeurs. Nous lisons le livre « Recouvre-le de lumière » écrit par Alain Moncouquiol, Verdier Poche.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.